Bonjour et bienvenue dans l'émission Transistor sur l'autre radio, bien sûr. Nous entamons cette nouvelle saison radiophonique avec toujours la même envie, le même leitmotiv, prendre le temps de rencontrer nos invités, de retracer leur parcours, de comprendre ce qui les anime, ce qui les influence, les guide, voir aussi de quelle façon ils créent, de quelle façon ils travaillent, qu'ils soient artistes, qu'ils soient programmateurs, qu'ils soient libraires, un peu toute la diversité des invités qu'on reçoit dans Transistor, toutes ces personnes qui font bouger la Mayenne, le département. Aujourd'hui, on aura le plaisir de prendre notre temps avec un musicien, un poète, un chanteur, un slammer. Nous sommes en bonne compagnie avec Jean-Pierre Pavis du groupe Two Team. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Nicolas.
Alors au sein du quartet Two Team, je le disais, tu es chanteur, slammer, tu es poète, musicien aussi, et on pourrait dire poésiqueur ou poésicos, pour reprendre une terminologie que vous employez, je crois, pour définir l'univers de Two Team poésique.
Ouais, la poésie, quoi. On savait qu'on faisait partie de cette grande famille de la chanson française, comme on dit si bien, sauf que il y a tellement de cousins, de belles-sœurs, de beaux-frères, de petits-enfants,
famille.
Des
famille
enfants,
nombreuse.
Et ouais, en plus des enfants, bon, pas toujours reconnus. Bref, on s'est dit, dans la famille, il faut qu'on arrive à nous situer sur le portrait global. Et donc, en ce qui nous concerne, on a déterminé ce qu'on faisait comme de la poésie.
Parce que la place des mots, de la poésie est centrale.
Alors, la poésie est sans doute centrale, mais c'est plus le sens donc des mots qui va être central. Et les notes de musique sont équivalentes en termes de valeur aux lettres aux lettres utilisées dans les mots que je dis. Voilà, c'est un peu dur à déterminer. C'est vrai que quand on l'a baptisé, on avait moins de mal à le dire. Ce soir, je suis plus emmerdé, mais oui, en gros, c'est quand même faire teinter les notes. Tu vois, par exemple, Joël, quand il va composer quelque chose à la guitare, ou Erwan au piano, il va me parler, ou on va parler d'une couleur. On va parler d'une couleur, d'une émotion qui va faire que la mélodie qu'ils vont inventer va être en relation avec l'émotion. Décrite par les mots. C'est en cela qu'on a voulu former ce mot poésique qui existait auparavant. Hein. C'est pas nous qui avons
inventé
ce terme.
C'est pas une invention maison.
On a cru au départ au génie et puis en fait on s'est rendu compte sur internet que ça existait déjà.
Quelqu'un a déjà trouvé. Ah,
c'est ballot. Voilà. En Très gros, ce qu'est la poésique pour nous tout au moins.
Alors vous figurez sur la prochaine compilation Transistor qu'on édite aussi avec le magazine du même nom. Vous avez surtout été à l'affiche du prestigieux festival Les Chaînons Manquants qui a eu lieu il y a quelques jours. Vous avez eu le plaisir de pouvoir jouer même deux fois devant un parterre de professionnels, parce qu'il faut le rappeler, le festival Les Chaînons Manquants, c'est un festival qui draine plus de 500 professionnels cette année, programmateurs qui viennent faire leur marché à Laval et puis qui voilà, sont susceptibles de programmer ensuite les artistes qu'ils voient lors du Chaînon. Voilà, comment vous avez vécu cette mise en avant, qui est une forme de reconnaissance sans doute, et puis aussi une opportunité, sacrée opportunité pour votre projet.
Oui, les deux, ouais.
Qui doit mettre la pression d'ailleurs.
Oui, mais toute relative dans la mesure où, d'une, on a pu jouer et on nous a offert la possibilité de jouer sur le lieu de la création du spectacle.
Voilà.
Alors on joue un petit peu à domicile, on va dire.
Ouais, vous étiez à la maison.
Voilà. On a pu aussi se préparer dans la salle un petit peu avant, grâce à des techniciens bienveillants, vraiment. Bon, on a répété pas mal quand même. On a répété pas mal, comme tout le monde hein, dans ces cas-là. C'est une reconnaissance, bien sûr. C'est une opportunité, bien entendu.
Mm-hmm. Ouais. Et alors comment on se prépare à ça? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui disent que voilà, c'est assez spécial de jouer dans un parterre de programmateurs. Justement, c'est pas un vrai public. Voilà, parce que voilà, comment on se prépare à ça et comment on vit ça? Est-ce qu'on vit ça comme un concert normal finalement, un public normal et puis basta quoi, on avance.
Ouais. De toute façon, on est parti de ce principe-là. On nous avait bien prévenu qu'il était possible non seulement qu'il y ait que des programmateurs, mais qu'en plus, certains d'entre eux pourraient sortir de la salle si ça leur convenait pas ou pour leur convenance personnelle. Mmh. Donc on savait que ça pouvait arriver, donc ne pas se partir en cacahuète, pas se déstabiliser.
Ouais. Revenez.
Donc ça, on était au jus. On a eu la chance que le public est également venu sur les deux séances qu'on a faites. Mmh. Donc il y avait un mix entre les programmateurs. Enfin oui, si on peut dire ça. Moi, je considère de toute façon que les programmateurs sont d'abord et avant tout des auditeurs et un public. Ils ont un statut particulier, certes, mais c'est d'abord un public, pour moi.
Et alors, est-ce que vous avez déjà des retours, est-ce que vous savez quelles vont être les conséquences du vous êtes content de vos concerts et vous êtes déjà content des retours que vous avez pu avoir sur ces concerts-là ?
On est content des concerts parce que les retours qu'on a pu en avoir du public et d'une partie de quelques programmateurs sont plutôt positifs. Maintenant, on ne peut pas présager de l'avenir concernant les tournées chez nous, puisque les réunions de tournée vont avoir lieu jusqu'à fin octobre.
Ouais.
Et c'est bien à ce moment-là qu'on aura quand même une vue un petit peu plus pointue de notre future réalité.
Arracher lumière du soleil. Oh, alerte, 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 mais baby, yeah, alerte, 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 mais
Alerter les bébés de Jacques Higelin, qu'on interrompt à regret puisque le morceau va continuer comme ça sur plus de 10 minutes. Jacques Higelin en 1976, peut-être que c'est à cette époque-là, en direct live à cette époque-là, que tu découvres ce morceau, Jean-Pierre. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Pavis, chanteur de Tout Team pour cette émission. Voilà, et c'est ton premier choix, hein, ton premier choix musical, ce morceau.
C'est mon premier choix, et puis en plus, c'est le premier artiste de langue française que j'entends.
Voilà, donc c'est vraiment. Et à ce moment-là, en fait, au moment où sort ce morceau, tu as quel âge? En 76
Alors, c'est pas en 76.
T'es encore un peu jeune.
Je ne connais pas encore, j'ai 12 ans en 76. Je connais pas encore Higelin. Moi, je rencontre Higelin en vrai.
Ah oui.
À 16 ans, en 1980, en mai 1980, à Plogoff. Parce que je fais partie de cette petite équipe de jeunes gens qui avaient décidé, avec ma grande sœur, j'entends, j'avais pas encore mon permis à l'époque, de filer sur Plogoff pour défendre le territoire contre la construction d'une centrale nucléaire.
Grand mouvement social qui a eu lieu très, à cette époque-là, grand, et qui a obtenu gain de cause, puisque la centrale ne se créera jamais grâce à des gens comme toi.
Ouais, alors je suis pas sûr. Oui, grâce à des gens comme moi.
Et aux habitants, à tous ceux qui sont mobilisés.
Voilà, surtout les habitants sont vachement mobilisés. Nous, on est venus après, hein, ça commence en 78 déjà, ça cartonne même avant les enquêtes d'utilité publique. Baston dur. Il y a un film qui relate très bien ce propos, c'est des pierres contre des fusils, à voir absolument. C'est un couple de Bretons, je ne me rappelle plus leur nom, qui a fait ça, pour ceux que ça intéresserait. Qui est vraiment la bataille contre les CRS, les photos de moutons contre un casque.
Et donc Jacques Higelin.
Très très joli. Et Jacques.
Pour revenir à nos moutons, justement.
J'étais un peu ému par l'ambiance, j'y étais. J'étais retourné.
Il est venu à ce concert, faire un concert de soutien, c'est ça ?
Jacques Higelin, sur le plateau, dans la baie des Trépassés, face à l'océan, pas de fond de scène, la mer. Et 150 000 personnes. Et là, je reste 3 jours sur le site et je vois ce mec qui hurle ce titre, Alerter les bébés. Et je lui dis, mais j'ai pris une baffe extraordinaire. J'ai essayé de comprendre de quoi il parlait. J'ai vite compris, effectivement, le propos qui est vraiment la base totale, vitale. C'est de ça qu'il parle. C'est des tripes, des gens. Qu'est-ce qui. Prévenez-les. Prévenez-nous. Prévenons-nous.
De.
Et prémunissons-nous.
De quoi?
du risque que c'est d'être humain dans l'humanité.
Alertons les bébés que la vie, c'est pas facile.
Ah ouais, c'est pas simple. Et donc, Jacques Higelin, c'est une de mes premières influences d'écriture parce qu'au même moment, un petit peu avant, je commence à écrire. Vers l'âge de 15 ans. Et c'est clair que Jacques Higelin, dans sa prose, dans ses rimes également, dans son timbre, m'influence. Extraordinairement, il est cash, il va piquer là où ça fait mal, et c'est pas encore très courant à l'époque, c'est pas encore super courant. Bref, je le décris comme une idole à 15 ans, à 16 ans, c'est vraiment un mec que je suis jusqu'à son explosion, on va dire, avec Champagne. En 81. Mais avant, il est moins connu, le gars.
Oui.
Et il chante pas Champagne sur cette scène de Plogoff. Il chante les tubes des années 76, notamment Alerter les bébés.
Et toi, comment tu, tu dis qu'à 16 ans ou 15 ans, tu commences à écrire. Est-ce que tu grandis dans une famille justement qui est sensible à l'art, à la littérature, à la musique? Tu vas te forger tes premiers goûts artistiques?
Ah, moi, je me souviens que la musique, elle est pas, c'est pas le fonds de commerce de la famille Pavy. Pour autant, j'ai un papa siffleur.
Famille Pavy qui est basée où d'ailleurs?
Qui est basée où? Qui est basée à Luisterie en fait.
En Mayenne.
En Mayenne. Comment dire? Ouais.
Je t'ai interrompu.
Oui, je disais, c'est pas le fonds de commerce de la famille. Ceci étant, j'ai un papa siffleur et danseur, très bon danseur. Je le vois dans les balles populaires dans lesquelles je suis traîné. Ça me ravit pas, mais je rencontre des copains et peut-être des copines.
Voilà.
Ça, je le saurai plus tard. Et puis, ma mère écoute Strauss beaucoup, les valses, machin, tralala. Je sais pas si ça a une influence dans mon parcours. Ce qui est probable, c'est que le fait de rencontrer une prof de français. Qui me dit écoute Jean-Pierre, est-ce que tu lis? C'est intéressant. Bref, elle accroche un peu sur mes bribes.
Ouais,
c'est ça, les bribes de textes que je peux faire sur les rédacs.
Et là, on est au lycée, on est au collège.
On n'est pas au lycée, on est en apprentissage des ministeries.
D'accord.
Et ouais. Et cette prof me prend un petit peu par l'âme et elle me conduit vers Boris Vian.
Et c'est une sainte, cette prof.
Ouais, carrément. Ouais, c'est, je la remercie grandement. Mm.
C'est une histoire de rencontre.
Elle m'a ouvert les bouquins.
Mm. C'est pas rien.
C'est même essentiel pour la suite.
Donc Boris Vian, L'écume des jours.
C'est ça, exactement. C'est en plus le premier bouquin que j'ai eu.
Et là, c'est le choc, c'est la découverte de quelque chose de nouveau.
C'est pareil, c'est un mec qui a une plume extraordinaire et j'entends sa voix. À Boris Vian. Alors je commence à m'intéresser à lui, je m'aperçois qu'il fait de la trompinette, et puis c'est un gros cinglé des mots, bref, avec la pataphysique et tout le tintouin. Plus tard, ça m'amènera vers les Oulipos. Mais la base, c'est Boris Vian avec la pataphysique, le collège de pataphysique. Mmh. Voilà.
Déjà le goût pour la manipulation des mots, pour le jeu, avec la langue, avec le verbe,
bah oui.
Déjà dès le départ.
Ah bah d'entrée de jeu, quand je vois, nous sommes le 38 juillet, dans un bouquin, forcément je me dis, attends, qu'est-ce que c'est? On a le droit de faire des trucs comme ça? Pourquoi pas? Ça donne une ouverture, enfin moi ça m'a donné une
liberté.
Ouais.
Mmh.
Ouais, carrément.
Comment on passe d'ailleurs dans Vian il y a de la musique, mais comment on passe de ça justement, de ces premiers chocs littéraires-là, de ces premiers émois, à la musique, puisque ça va être après ton... On a parlé d'Higelin, c'est ça, mais comment de Higelin, de la découverte d'Higelin, tu vas passer aussi à la pratique comment on passe de l'écoute au fait d'en faire?
Oui, oui. Ouais,
finalement, ça va être ça qui va t'arriver.
C'est quasiment synchro. En parallèle, juste un peu avant, en fin de troisième, avant d'entrer en apprentissage de ministerie, je croise un mec qui joue de la bombarde. Et alors, je suis... explosé au niveau des oreilles déjà, mais pas que. Je me dis, mais c'est prodigieux ce truc, on dirait un canon à musique. D'où ça vient, qu'est-ce qui se passe? Et je vois quand même aussi, je suis pas complètement. Je vois que ça ne laisse pas insensible, même de loin, les filles, même par curiosité. Je m'en apercevrai trop tard, ça. Mais, mais bref, bombarde. Et là, je traîne avec ce gars et petit à petit, je commence à savoir ce que c'est qu'une bombarde, la musique celtique, la musique bretonne notamment. Et je tombe dedans, je rencontre des gars sur Laval. Et puis petit à petit, on va former un groupe qui s'appellera plus tard Isoz. 4 ou 5 ans après, avec qui on fait un gros chemin au niveau breton. Puisqu'on gagne en 89 le Canard Bobl. Alors le canard bol, c'est le chant du peuple, ça veut dire en breton. Et pour info, en 89, quand on gagne ce concours, derrière nous, il y a Ari Yawank.
Mm-hmm.
Et Ari Yawank gagne en 90 et fait une carrière mondiale en fait. Hein. pas nous. Nous, on a tourné 3 ans quand même en Italie, en Espagne. On a représenté la Bretagne dans pas mal de coins.
Et toi, tu joues de quel instrument à ce moment-là du
Moi,
coup,
je suis talabardaire, donc un joueur de bombarde.
D'accord.
Mais je joue aussi...
Apprentissage autodidacte, pour le coup, avec d'autres musiciens.
Avec d'autres musiciens.
De la méthode traditionnelle, en fait, sans et partition, à l'oral.
Tout à fait. Notamment avec Jojo Épinette, Georges Épinette, qui est un très, très grand talabardaire vannetais, et qui va m'apprendre les fondements de la musique vannetaise par la bombarde. Voilà.
Donc à ce moment-là, t'es complètement immergé dans la musique celtique. On est loin de Yvelin, des paroliers.
Oui. Je mène ces deux aventures en parallèle. Il n'y a pas de pont encore. Il n'y a pas de pont.
Quand tu dis deux aventures, c'est-à-dire l'aventure de la musique que tu joues avec ce groupe et le travail d'écriture que déjà tu poursuis, j'imagine.
Oui, exactement.
Mais qui est un travail purement personnel, intime. Quoi.
Exactement, il n'y a pas de pont. Il n'y en a pas. Et le pont arrive très tardivement, on le verra tout à l'heure, mais il arrive avec tout team.
C'est une écriture, du coup, de journal intime, de poésie, de chansons déjà de...
Ce sont déjà des textes structurés. Il y a des pieds, j'adore les pieds, j'adore les alexandrins. Et puis je me rends compte que, bah oui, bon, c'est bien les alexandrins, mais ta 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 ta, ça peut aussi être redondant. C'est pas ce qui marche le mieux avec les filles, on peut pas dire. Quoique, faut voir. Mais bon, je me mets à la prose aussi pas mal. Enfin, j'essaie différentes formes de langage, d'écrit, voilà, de linguistique.
Petit bond dans le temps, on va poursuivre cette aventure, ce chemin. Mais petit bond dans le temps avant cela, pour atterrir en 91, on n'est pas très loin de ce que tu commences à nous raconter. Alors si vous avez grandi dans les années 90, pardon, vous n'avez pas pu échapper à ce morceau. Je vous laisse découvrir.
Put it in you.
on est en transe dans le studio, on est torse nu, on est en train de suer. C'est un peu l'image de ce morceau des Red Hot Chili Peppers, donc enregistré, sorti en 91, second choix de notre invité Jean-Pierre Pavis, chanteur slammer du groupe Two Team. Alors, comment vous, Jean-Pierre, l'amoureux des mots, le poète, l'apôtre de Gainsbourg, de Ferré, vous aimez cette musique de décibéré pour skater, skater sous THC?
Ah bah c'est un petit peu la deuxième baffe. La première, c'est Higelin, on en a parlé tout à l'heure. Là, en fait, on arrive...
On est loin de l'univers quand même de Two Team, voilà ce que je voulais
dire. Ah oui, complètement, bien sûr. Mais
et pas... même de Higelin que tu
évoquais. En tout cas... Okay. L'univers, la volonté d'univers n'est pas très loin. Moi, ce que je vois dans les Red Hot, c'est le punch, l'impact des mots et surtout la sculpture rythmique qu'il y a et la phase qu'il y a entre la rythmique basse, batterie et l'impact des mots.
Comment se pose la voix sur le beat, en fait, sur le rythme.
C'est énorme. Mmh. C'est super
très
carré.
Proche du rap.
Et puis, pourquoi je découvre ça à cette époque-là? C'est parce que je suis en rupture avec... Je suis en rupture avec le groupe dont on parlait tout à l'heure.
Oui, effectivement, on est aussi loin de la musique que vous pratiquiez à cette époque-là, ouais. Musique celtique, musique irlandaise, musique bretonne.
Alors, musique bretonne d'abord, et en fait, on a été repérés simplement parce qu'on était les premiers à mettre une contrebasse et des synthés dans la musique celtique, et là, ça a vachement été repéré. On a eu le plaisir de rencontrer des gens comme Stivell, on a bossé avec son impresario. C'est ce qui a fait aussi qu'on a pu tourner un petit peu.
Rupture.
Ouais. En 90, on est en Italie pour une petite tournée. Et puis, on s'entend pas sur une possibilité qu'on a d'enregistrer un album directement en live. Quelqu'un nous propose de produire l'album et il y a des voilà. On n'est pas tous d'accord. Moi, je décide de j'annonce mon départ du groupe dans une radio milanaise en direct à mes collègues qui ne le savaient pas.
Et effectivement, ouais, ça a dû jeter un froid.
Un petit froid. Puis il y a eu la traduction aussi, la traductrice qui était un petit peu qui se demandait si je déconnais ou pas. Donc on a fait un an de concert à la suite de ça, c'est-à-dire les contrats qui étaient engagés. Mmh. Et puis voilà. Et puis après, je suis parti parce que bon, il fallait que j'avais envie vraiment de partir. Et je tombe sur cette musique de cinglé. J'écoute ça et je fais des bonds. Je saute partout. Moi qui suis pas un super danseur, je le suis pas plus quand je saute, mais j'ai l'impression de l'être. J'ai l'impression d'être en phase avec la rythmique des mots.
Il y a un truc corporel là.
Ah, c'est juste. Ouais, c'est ça. Il y a une explosion. Mon psy peut-être pourrait dire qu'il y a un rapport entre le fait de vouloir sortir de la phase initiale là, du folk et ce jaillissement autour des Red Hot. Je sais pas, j'en sais rien, je lui ai jamais demandé.
Et du coup, alors tu décides de faire de la fusion. Comment t'évolues musicalement?
Non, alors j'évolue pas du tout, je fais une rupture musicale.
Tu fais une
10
pause.
Ans.
Ah ouais.
Je fais 10 ans.
J'arrête la musique.
J'arrête pas la musique parce que, en fait, je me concentre sur les textes. Et là, j'écris.
Mais
j'écris.
Toujours dans le secret, quoi.
C'est toujours du
chambre ou de ton bureau.
Ouais, c'est du off. Je vis dans une ferme à l'époque, une assez grande ferme avec beaucoup de bâtiments, donc beaucoup de boulot. Et j'écris. J'affûte mes crayons. Et puis, j'essaie de. Sans même le savoir ni le vouloir, j'essaie de constituer ce qui peut-être serait mon style. Peut-être. Mm-hmm. Voilà, ça dure 10 ans.
La barre est haute en même temps.
Oui, la barre est haute et puis il n'y a
si
pas de...
Si tu te situes par rapport aux paroliers ou même à des écrivains, enfin voilà, en fait, trouver sa voix.
Oui, ouais, exactement. Mais là, effectivement, le X, je le mets très, très récemment sur voix. Très, très récemment.
En plus.
Ouais. Mm.
Et du coup, juste par curiosité, donc tu as une activité, j'imagine que tu ne vis pas de ta plume, puisque les textes restent en interne, on va dire. Donc, tu as une activité, du coup, tu travailles dans une ferme, donc tu produis des... Tu es agriculteur.
Je vis dans une ferme. Je suis animateur socioculturel.
Voilà.
Mais je vis dans une ferme, ce qui est un vrai plaisir. Hein.
Dans Phalanstère, dans ton monastère, ouais. au calme pour
après l'inspiration. Je fais des petits écarts. Il y a des groupes qui viennent répéter dans la grange, qui est assez dénué de présence humaine pour supporter les premiers pas de certains groupes de rock. Je me souviens pas du nom. C'est un groupe rock lavallois qui a cartonné pendant je sais pas combien de temps, qui a commencé chez moi. J'ai plus leur nom. C'est fou ça. Dans les années 90, en tout cas. Bref. Voilà. Et...
Alors revenons à l'écriture. Oui. En fait. Est-ce que toi, tu te nourris à ce moment-là, surtout des écrits, du travail de chanteur, justement, puisqu'on a parlé d'Igelin, on a parlé... Mais ou est-ce que c'est plutôt, des influences littéraires qui vont guider tes pas d'écrivain, en tout cas de parolier. Citais tout à l'heure Loulipo. Ouais. Alors pour resituer, c'est des gens comme Georges Perec, Raymond Queneau qui vont vraiment jouer avec la langue, les registres de langage. T'es un fervent admirateur, je crois, cette école.
Ouais, ouais. Tu parlais de Perec. Ce mec est capable d'écrire une nouvelle de plus de 30 pages qui s'appelle La disparition sans utiliser la lettre E. Une seule fois dans cet écrit. C'est lisible, il n'y a pas de redondance, c'est somptueux. Bonjour la défiance. Le gars, c'est un équilibriste, je ne sais pas comment il arrive à faire, mais il y arrive. Et les Oulipo, voire littéraires potentiels, la contrainte est libératrice.
Voilà, c'est ça.
La contrainte est libératrice.
Est-ce que c'est un exercice que tu pratiques ?
Ah, fondamentalement. Fondamentalement, parce que c'est ce qui m'a permis... jusqu'à aujourd'hui d'écrire non pas sur commande mais de me dire tiens aujourd'hui j'ai envie de parler d'un domaine que je connais absolument pas, je vais prendre la peinture par exemple, j'ai écrit un texte sur la peinture, je panne rien en peinture, mais quand je te dis rien, même faire de la peinture je suis nul, je connais aucun peintre, je connais leur nom, je connais pas leur époque, enfin bref c'est lamentable. Et je me donne le défi d'écrire un texte sur la peinture artistique. Et bah ouais, je vais me renseigner. La contrainte est libératrice, elle t'oblige effectivement à contourner tes contraintes et ton esprit devient créateur et créatif. C'est leur, en tout cas, c'est leur prétention à ces génies. Les Oulipo, ça existe toujours. C'est une asso qui est active. J'en fais pas partie.
Mais tu n'es pas membre.
Je suis pas membre, mais je les trouve vraiment prodigieux.
En tout cas, c'est des règles d'écriture, des techniques d'écriture que tu t'appliques à toi.
Oui, complètement.
Dans ton travail de parolier.
Ouais. Et puis, je me suis pas... pendant ces 10 ans, je me suis plus concentré sur l'observation que sur des écrits de poètes. Ou l'écoute de certains artistes comme Brassens, Ferré, Brel, je pense à zut, comment s'appelle-t-il, bon sang. Bref, ça me reviendra. plusieurs chanteurs en chanson française, Juliette, sublime. Donc, moi, j'adore aussi.
Donc, c'est quoi ? Tu décortiques, tu écoutes, tu...
J'écoute, t'observes. Mais ça ne vient pas m'influencer en termes d'écriture. Ce qui m'influence en termes d'écriture, c'est ce que je perçois dans la rue, quand je me balade, quand je croise des gens, quand je vis, en fait. C'est un truc que j'entends, par exemple, une conversation. Un peu comme le mec qui fait les brèves de comptoir, Gouriot. Il entend des trucs dans les bars et il les ressort, lui, il les ressort intacts de leur contexte et il nous les fout dans un livre et nous, on se pisse dessus. C'est trop drôle. Là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est, je vais avoir des fois un truc qui se passe.
Il s'agit d'être en veille, en fait.
Jamais pensé, exactement. Et en fait, je suis beaucoup dans l'observation et à partir de ces bases...
L'oreille grande ouverte.
Ouais, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai un téléphone... l'appli que j'utilise le plus, c'est la prise de notes. C'est bourré de notes, en permanence. Je vais me lever la nuit parce que j'ai une mémoire de merde, donc je vais me lever et puis je vais inscrire ce que
c'est pas
ce
le calepin, le téléphone c'est le calepin en fait.
Exactement. Par contre, quand je réécris les textes, je passe systématiquement par le stylo. Je n'arrive pas à écrire sur un ordi. Ça je vais le faire après quand
besoin de encore une fois du physique du geste manuel qui va déclencher quelque chose souvent en fait
ouais. la mine du stylo.
Un peu comme un guitariste qui a besoin pour composer de jouer sa main, de jouer sur la guitare pour trouver les accords finalement.
J'imagine, ouais. J'imagine. Ouais.
Il y a besoin de ce rapport physique pour que ça jaillisse, que ça sorte.
Moi j'en ai besoin. Il y a un contact charnel avec le papier. Et ce crissement parfois doux qu'exerce l'écriture par la mine sur le papier, ça j'adore.
Peut-être que c'était de lui dont tu voulais parler quand tu ne retrouverais pas un des artistes que tu voulais évoquer. Est-ce que ça n'était pas Bachung?
Alors il y a Bachung, bien sûr, mais je pensais notamment à François Léotard. Oui. À François,
Frère.
À son frère justement, ouais. À Philippe Léotard. Ce mec m'a beaucoup surpris. Je l'ai trouvé prodigieux. Moi, je l'avais connu au cinéma, un peu comme tout le monde, je pense. C'est un auteur remarquable et c'est un diseur de mots à se fendre l'âme. Et il est prodigieux. Il y a un album qui s'appelle Comme à la guerre, que je conseille à tout le monde, qui je crois qu'il a fait deux albums, grand max. Et celui-ci est sublime. Il faut le voir, il faut écouter par exemple le titre Cinéma. C'est d'une profondeur.
Ça n'est pas le titre que tu as choisi pour poursuivre cette émission.
Non.
C'est aussi un superbe album que j'évoquais, d'un artiste que j'évoquais tout à l'heure, Ala Bachung. Un album qui s'appelle L'Imprudence, parce que tu peux dire deux mots aussi sur Bachung, puisque c'est vrai qu'il y a des. Quand on entend la musique de Toutim, on entend un peu en arrière-plan comme ça, des accents.
Bah, ça fait super plaisir d'entendre ça, hein, tu sais, mais Bachung, c'est pareil, c'est un opérateur. Génial de crise, de foi. Dans le sens profond du terme, c'est un gars qui est capable de me transporter, comme un verbe qu'il utilisait assez souvent, le transport. Il a une plume, parce que là, le titre qu'on va entendre, c'est sa plume. Il bosse beaucoup avec certains auteurs, mais il est partout. Il est derrière les consoles, il est derrière le stylo, il est derrière le micro. Et il a une voix extraordinaire.
Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu te mires? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. Tu l'auras toujours ta belle gueule, tu l'auras ta superbe, à défaut d'éloquence. Tel Machiavel, telle la belle ganse, tel Guillaume Tell, à quoi tu penses, à quoi tu penses? À l'avenir, laisse venir, laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir, laisse venir. L'imprudence. Tu perds ton temps à te percer à jour devant l'obstacle du vélo. verra, on se révèle. Tel Perceval, tel Casanova, tel Harvey Keitel, à l'avenir, laisse venir, laisse venir.
Voilà, on laisse Alain Bachung tranquillement à l'avenir, voir venir, pour justement revenir sur le parcours de Jean-Pierre Pavy, notre invité, et sur finalement ce qui va arriver après toute cette période qu'on a évoquée avant ce morceau, qui va être la création d'un groupe où finalement tu vas pouvoir mettre en musique tous ces textes que tu fomentes depuis de nombreuses années. Ouais. Quel était le déclic ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit c'est bon, j'y vais ?
Alors, ça passe par plusieurs époques transitoires qui sont intéressantes et qui sont des apprentissages. Et puis la continuité de fabrication du réseau, de mon réseau, c'est d'abord la création d'Electricity en 2003. Groupe, avec ma femme à l'époque, Alexandra Yaromova, jusqu'en 2006. Ensuite, c'est la création
de Bâle
qui s'arrête.
Qui par certains accents a un côté fusion d'ailleurs, pour faire le lien avec, avec les Red Hot Chili Peppers qu'on a écouté tout à l'heure.
Oui. Là, c'est une époque hyper cash, hyper trash.
Mais tu ne chantes pas à ce moment-là.
Par contre, je commence à fournir des textes.
D'accord.
À Guillaume Rousselet, qui est l'interprète dans ce groupe.
Bâle.
Voilà, Bâle. Et à qui je fournis sur notre album deux ou trois textes, je ne me rappelle plus exactement. Non, je fournis deux ou trois musiques et un texte. Voilà, c'est ça. Donc ça commence comme ça, ça me donne vraiment envie. Hein. On s'arrête, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'arrête, mais je crois que c'est en 2009 ou quelque chose comme ça, 2009, 2010. Et puis ensuite vient cette période où je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ce carnet de notes ? Qu'est-ce que je vais foutre de ces textes ? Je ne suis pas du tout sûr de vouloir interpréter quoi que ce soit. Ce que je me dis dans ma tête, c'est je veux faire quelque chose avec ces textes. Point final. Et là, j'ai la chance de connaître, pour les avoir croisés, soit dans des projets. Je croise Joël Flambard, guitariste avec qui j'ai travaillé avec Babel sur le Babel Slam Trio à cette époque intermédiaire, là, ouais. De 2010. Et je croise également Erwan Boursier, qui joue à l'époque dans Bashka, notamment. Et je les invite, je dis, ah, voilà, j'aimerais bien vous faire lire des textes et... On prend l'apéro, machin et tout. je leur avais envoyé avant pour qu'ils puissent les lire. Et j'arrive, alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, lisez-nous. Direct. Et je dis, oui, mais je veux dire, vous les avez lus? Ouais, mais lisez-nous. D'accord. Ok. Donc je lis les, je ne sais plus combien il y en avait, une quinzaine de textes à ces deux gars. Et qui me disent, bah, on va les mettre en musique. Attendez, déconnez pas les gars, je voulais dire que vous êtes sérieux. Vous êtes vraiment sérieux, on va faire de la musique avec ça. C'est sûr. Et on met un an et demi dans un studio qui est à la maison, à Laval, où j'ai déménagé. Et on travaille pendant un an et demi sur les couleurs, sur les émotions. Je leur décris un petit peu l'humeur de mes propos. À savoir, bah, cette fille dont tu parles là dans ce texte, elle est comment physiquement? Comment elle est habillée? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est gaie? Quel temps il fait dehors? La lumière est de quelle couleur dans ce bar? Et voilà. Et ils ont ce talent de proposer un écran musical hyper adapté aux mots. En gros, chaque syllabe, j'arrive à leur foutre le cul dans un siège fait sur mesure. Et ça, c'est vraiment un luxe. Et c'est grâce à Joël et à Erwan. Voilà, plus tard arrivera Nicolas, c'est très récent, ça fait 2 ans que Nicolas est avec nous, à la batterie et aux percussions. Lui-même transfuge de Bashka, alors que les gens ne m'en veulent pas, je n'ai pas. on n'a pas retiré l'âme substantielle de Bashka, hein, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà, on a des accointances et on en profite.
Comment tu passes le cap de prendre la parole, de te mettre derrière le micro quand on n'a jamais chanté, quand on a une carrière derrière soi de musicien et qu'on passe comme ça un peu sur le tard, désolé de le dire comme ça.
Ah bah non,
comment on passe le cap? C'est pas facile ce rôle de chanteur, on est devant, et voilà, enfin, on chante. En tout cas, justement, comment toi t'as appréhendé ce rôle de chanteur, ou en tout cas de leader vocal? Pas forcément par le chant d'ailleurs.
Ouais. Et déjà, je m'aperçois, comme tu dis tardivement, en fait, je suis un jeune chanteur de 55 ans. Mmh. Voilà. Jeune parce que, effectivement, très jeune dans cette matière artistique. Mmh. Ça fait pas des années que je pratique ça. Donc, comment je prends ça? Je prends les bases. J'apprends déjà à connaître ma voix avec une prof de chant. Je me détends un tout petit peu, même s'il y a toujours du travail à faire. C'est le boulot essentiel hein, des chanteurs et des gens qui causent dans le poste. C'est arriver à trouver une détente corporelle qui permette d'envoyer le steak quand il faut l'envoyer ou de susurrer quand c'est le besoin qui se présente. Et voilà. Mais c'est du boulot vraiment important.
C'est un travail sur soi.
Beaucoup, beaucoup.
Peut-être plus que tout autre instrument.
Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, c'est magique parce que on s'apprend. C'est-à-dire que par la voix, moi, j'ai appris des trucs que j'ignorais totalement de moi, physiquement. Bon, je savais que j'avais un peu de bide, mais là, si tu veux, tu perçois des choses de ton intérieur. Enfin, en tout cas, moi, je ne les avais pas perçus auparavant. J'ai eu la chance d'avoir une prof de chant qui m'a beaucoup aidé là-dessus et qui m'a permis de connaître quelques petites techniques que je continue à travailler, mais qui m'a ouvert les yeux sur ma voix.
À ce moment-là aussi, il y a un phénomène autour du slam qui se développe beaucoup à ce moment-là, à cette époque-là. Est-ce que ça va être aussi quelque chose qui va t'inspirer justement? Voilà, on peut aussi dire des mots en musique de cette façon-là, sans rapper, sans chanter, entre les deux. Et en même temps, s'inscrit dans la tradition, je ne sais pas, mais en tout cas dans la lignée de gens comme Gainsbourg, comme Bashung qu'on a écouté tout à l'heure, qui sont justement aussi dans cette frontière-là entre le chant et le...
Mais oui, et qui l'ont fait bien plus tôt, eux. Mais en fait, moi, j'ai pas trop eu le choix, parce que, comme je le disais précédemment, les gars sont venus en me disant « on va mettre ça en musique. Eh oui, vous êtes gentils, les gars, mais moi, je chante pas. Eh ben, c'est pas grave, on va parler. » Et donc, j'ai beaucoup dit mes textes au début. mais principalement dit simplement parce que je n'avais pas de technique vocale de chant. Et petit à petit, j'ai bossé le chant. Ça ne veut pas dire que je suis un chanteur, mais j'ai plus de capacité vocale qu'au tout début. Je peux noter les mots. Mmh. Je peux chanter aussi les mots. Ça peut m'arriver hein, dans certains textes où il y a du chant. Mais ma technique favorite est celle sans doute du texte dit, lu. Ou éructer, ou crier, ou poser simplement. L'humeur est vachement importante, en fait. C'est ça. T'es dans quel contexte et comment tu vas faire avec ta voix, faire voir les images que tu évoques dans le texte. C'est primordial.
Quelque chose de très visuel, finalement, qui pourrait renvoyer au cinéma, mais qui pourrait aussi renvoyer au théâtre. Et c'est vrai qu'on identifie votre musique et votre, plus que votre musique, votre univers à celui du théâtre.
Oui. Et puis, tu as complètement raison. C'est aussi pour ça que j'ai retravaillé un petit peu le théâtre. Pas suffisamment, sans doute, mais en tout cas, j'ai bossé le théâtre en parallèle de la construction de Toutim. Parce qu'on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait un personnage. Il y avait un personnage sur scène qui évoquait des situations.
C'est pas Jean-Pierre Pavis.
C'est pas Jean-Pierre Pavis, c'est un personnage. Le premier spectacle, notamment Rare Effraction, c'est bien l'histoire d'un mec qui rentre dans sa mémoire par effraction parce qu'il a peur de ce qu'il va y trouver. Donc c'est bien un personnage. Le mec, il est taré. Hein, je veux dire, tu vois bien qu'il est pas, il est un peu perché. Mais et c'est pas moi qui suis absolument droit et limpide, absolument pas. Rien à voir. Mais voilà, je dois camper un personnage. Donc il y a ce décalage à créer et en même temps amener de soi-même pour
un vrai travail de comédien, d'acteur.
Bah, je sais pas. En tout cas, moi c'est ce après quoi je cours depuis ça. Hein. J'essaie en tout cas. Voilà.
Donc en 2015, vous enregistrez, fin 2014, vous enregistrez les chansons du spectacle que tu évoquais, Rare Effraction.
Oui.
Et puis cette année, vous ressortez, vous réenregistrez deux morceaux dont on va écouter un extrait, justement, un de ces morceaux qui est un extrait de votre nouveau spectacle et qui se prénomme Mademoiselle Orly.
Le lit, tout bien fait, rectangle parfait, ça souffle au volet, ça souffre au voleur, jugé, peine de cœur. Je parle à mes draps, je parle, ça m'aidera, l'avion est pressé, l'amour de passerelle, encore un coup d'aile. J'observais ton corps, comme ça, sans effort, des forts et des faibles et des fables, comme ça, sur la table. J'observais tes yeux, pas en face des trous, mais parce qu'ils sont deux, parce que tu t'en fous. J'observe un silence. Tu ne m'entends pas, mais tu ne mens pas tant. Ça c'est épatant quand je te dis tout bas. Viens ici, fous le camp. L'absence a des torts, qui tord de la vie. Et la vie a des morts, qui mordent l'ami. Qui manque à l'appel.
Mademoiselle Orly Toutim, extrait du nouveau spectacle du quartet Toutim, justement. Alors, dans le prochain numéro de Transistor, du magazine Transistor, on va s'intéresser à la création, à la façon dont les artistes créent. On rentre un petit peu comme ça dans le secret des laboratoires des artistes. Et on va prendre je te propose, Jean-Pierre, de prendre cet exemple de Mademoiselle Orly, justement. Comment ce morceau-là, qu'on vient d'écouter, comment il est né? C'est quoi l'étincelle? Et petit à petit, quel était le processus vers ce qu'on a entendu maintenant?
Alors, comme toutes les chansons de Toutim, ça part du texte. C'est un principe de fonctionnement qu'on a depuis le début. On pose le texte et on voit ce qu'on peut faire musicalement dessus. Alors, on voit, c'est principalement Erwan Boursier,
accordéoniste, pianiste, voilà. Claviériste.
Et Joël Flambard. Sachant que le dernier arrivé, Nicolas Marchand, s'occupe beaucoup des arrangements, mais ne participe pas, à l'heure actuelle, à la création des mélodies. Par contre, il est essentiel, comme tous les quatre, on mène au...
Il y a une dimension collective.
Ah, c'est clair.
Très fort.
C'est clair. On travaille à quatre sur la fabrication. Maintenant,
Donc, toi, tu amènes ce texte,
ouais.
Voilà, que tu peaufines. Combien de temps tu mets pour créer un texte du moment où tu as l'idée jusqu'à le point final?
Eh ben, écoute, ça dépend. C'est très variable. Ça va de une nuit à 12 ans.
Tu vois, c'est vrai que c'est, effectivement, ouais. Il y a une grande amplitude.
Parce qu'il y a beaucoup de textes interrompus. Moi, je vais écrire une phrase, deux phrases, des choses comme ça, et je stocke mes données. Et après, effectivement, je viens à la pêche dans mes mémoires d'écriture pour constituer des textes sur une thématique qui vient de me sauter à la gueule. Bon. Je vais aller chercher. Oui, j'avais écrit ça là-dessus. Tac, tac. Ça me permet, moi, de construire et d'avoir des bases, comme beaucoup font. Hein. Je veux dire, il y a énormément d'auteurs qui travaillent comme ça. Donc, c'est pas une nouveauté, mais heureusement qu'il y a ça. Que la collecte journalière, d'aller dans la rue, de voir quelqu'un.
Il faut être bien organisé pour retrouver ses idées.
Ah ouais, alors des fois, c'est un vaste bordel. Mais bon, j'essaie de faire attention à ordrer.
Ouais, l'artiste n'est pas si bohème que ça.
Non, mais je perdrais trop de données. Hein. J'ai déjà une mémoire très, très capricieuse. Si j'avais pas un bon ordi et puis des feuilles à traîner partout, mais bien rangées quand même.
Voilà, donc voilà, tu vas piocher comme ça dans une matière que tu collectes au jour le jour pour créer un texte qui va être créé soit une nuit, soit en 12 ans. Une fois que tu as terminé ce texte, comment ça se passe? Tu vas voir Erwan et Joël que tu citais tout à l'heure en disant voilà, j'ai ce texte-là. En fait, tu leur présentes un corpus de textes, une dizaine de textes, puis après ils mettent en musique, ou alors c'est plutôt au fil de l'eau?
En fait, de toute façon, ça passe par les laboratoires. Où on va travailler sur la construction des spectacles.
Oui, voilà. Donc, il y a un spectacle à créer. Voilà. Donc, j'ai 10 textes et on y va. Quoi.
Exactement. On va partir, là, pour l'instant, hein, je veux dire, on est un groupe assez jeune quand même. Mais
2013, la création du
2013,
groupe.
Ouais.
Fin 2012, tu me disais tout à l'heure, hors antenne.
C'est ça. Donc, on part dans l'optique d'un spectacle. Et donc... on bosse pendant les deux premiers spectacles qu'on a montés, on a mis 2 ans à les fabriquer. Donc pendant 2 ans, régulièrement, une fois par semaine, 2 fois par semaine, des fois un peu moins, des fois un peu plus, en fonction de ce qu'on peut faire, on bosse. On dit, tiens, moi j'ai... Erwan me dit, Joël me dit, Nico me dit, moi j'ai pensé à un truc bleu. Ah ouais, d'accord, bleu, ça donne quoi au niveau musical, bleu?
On peut entendre.
Et puis paf, voilà l'humeur dans laquelle ça part toujours, comme je disais tout à l'heure, de la description de l'émotion du texte. Qu'est-ce que moi je perçois quand j'écris ça? Ces données, les gars partent, je sais pas ce qu'ils font de leur journée et de leur nuit, mais quand ils reviennent, ils ont souvent des musiques. C'est assez impressionnant, peut-être un peu bizarre. Mais voilà comment on construit les morceaux.
Et la finalisation, c'est l'enregistrement, en tout cas, de ce qu'on a entendu là. Même si vous passez aussi beaucoup de temps à créer les spectacles, on l'a dit, il y a une dimension théâtrale, une dimension spectacle. C'est plus qu'un concert, c'est un spectacle, ce que vous proposez sur scène, avec aussi une équipe technique qui va mettre en lumière, qui va mettre en son. Ah, et puis à la phase aussi d'enregistrement, de fixation sur la bande. Maintenant, c'est plus des bandes, c'est des disques durs, de fixer une trace sonore de ces créations-là. Et là, pour vous, c'est important d'enregistrer dans l'énergie du live, dans l'énergie collective, parce qu'on sait qu'en studio, parfois, on peut enregistrer piste par piste, chacun son tour. Non, là, vous êtes tous ensemble.
Ah oui, et puis c'est...
Regardez cette énergie, vous êtes vraiment un groupe de scène, de live.
C'est ça, c'est une matrice circule. Qu'on veut conserver. On veut conserver l'énergie qu'on va pouvoir rendre aux gens. C'est-à-dire pas préfabriquer un son qu'on serait incapable de rendre en live. Ça n'a pour nous aucun intérêt.
C'est pas la démarche.
Voilà, pas du tout la démarche. Ouais. Donc on va enregistrer ensemble, et puis on a de la chance... On a quand même des artistes techniciens qui nous suivent depuis le début du projet. Thomas Ricou qui gère et crée l'aspect sonore de ce spectacle. Et puis Yvan Fougeret qui nous fait des lumières à tomber par terre aussi, qui sont somptueuses, qui sont plus des lumières de théâtre d'ailleurs que de musique, c'est ce qu'on nous dit tout au moins. Mmh. Et voilà, avec ces deux artistes-là, on est six en fait, hein. On n'est pas quatre, on est six. Voilà. Je ne parle même pas en plus des gens qui ont travaillé et qui sont eux-mêmes des artistes, comme Jeanne Michel qui m'a accompagné sur la mise en scène du dernier spectacle, Karim Fatih qui a travaillé sur le premier spectacle dans la mise en scène.
Et tous ces regards extérieurs aussi que vous avez eus qui vous ont permis de faire évoluer votre musique, de dégraisser.
Carrément.
Je pense à Babel notamment, ouais, qui a travaillé avec vous, ouais, tu citais tout à l'heure aussi, qui va amener un regard extérieur, qui va vous permettre aussi de prendre du recul sur votre musique, de simplifier des choses, d'éclaircir, ouais, le propos, de préciser. Voilà,
on a pris cette habitude un petit peu avec toi, Nicolas, de faire des résidences. Et on s'est aperçu très tôt, déjà du temps de Bâle, que les résidences de création sont essentielles. Déjà, à bien anticiper comment on va être sur un plateau, tout en construisant les morceaux. Nous, on a dû faire 5 résidences, je crois, d'une moyenne de 3-4 jours pour la création du spectacle.
Et vous êtes sur scène.
Ouais. Et on est sur
déjà
des
scènes. Sur scène.
On a de la chance parce que sur Laval, quand même, faut pas se plaindre, il y a quand même pas mal de lieux et il y a aussi une volonté politique
qui vous ont
qui
ouvert
là,
leurs portes.
Qui, ouais. Voilà, exactement. Le 6x4, l'avant-scène pour la ville de Laval.
L'atelier
des arts vivants avec Thibaut lorsqu'il était là, qui a fait un super boulot d'ailleurs. Et puis, le théâtre du tiroir également, pour les premières résidences. Voilà.
Mmh. Alors, on aura le plaisir de vous découvrir sur scène, puisque, je suis désolé, mais on approche très vite, tout doucement, mais très vite aussi vers la fin de cette émission. Et donc, découvrir cet univers sur scène, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour rencontrer l'univers de tout team. Et donc, il y a déjà un rendez-vous qu'on peut donner, c'est celui du 26 octobre, puisque vous participez à la prochaine Compile Transistor, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, compilation qui va réunir 16 artistes de Mayennais, donc, qui fait le point comme ça sur l'actualité musicale du département, dans laquelle on va retrouver tout team. Du coup, autour de cette compile, il y a plusieurs concerts, dont un, je me permets au passage de glisser cette information, aura lieu le 13 octobre, un dimanche, au Reflet à Saint-Berthevin, dans cette très belle salle du Reflet. Il y aura 6 musiciens qui figurent sur cette compile, 6 artistes qui figurent sur cette compile, qui seront présents pour jouer en live. Donc voilà, ça sera une soirée, un concert assez chouette, gratuit, avec plein de surprises, de rencontres, de featuring entre les artistes. On retrouvera notamment Mémélie Watt, on retrouvera Fox, on retrouvera Men, Chaban, Johannes, et j'en passe. Et puis, on a aussi une série de concerts en médiathèque où on retrouve les artistes de cette compile et vous participez tout team à ces concerts en médiathèque. Donc, on ne sera pas dans l'univers du théâtre, on ne sera pas dans la boîte noire, mais on pourra rentrer dans une relation assez intime aussi, puisque c'est un petit lieu. Donc, à la médiathèque de Cran, le 26 octobre à 15h, et c'est gratuit. Donc, voilà, pour le rendez-vous. Et puis, dans un lieu beaucoup plus spacieux, on pourra vous retrouver le 7 février au Théâtre de Laval, en première partie d'Alexis HK. Alors, c'est assez lointain, mais par contre, je pense qu'il faut assez vite réserver ses places, si ce n'est pas déjà complet.
Je pense malheureusement que c'est déjà complet.
Donc, appelez quand même le Théâtre de Laval,
si
ça vous intéresse.
De toute façon, il faut faire toujours la même chose au Théâtre de Laval. C'est ce que dit Pierre Jamais très souvent. N'hésitez pas à rappeler, parce que quelquefois, on a des désistements ou des places qui se libèrent tardivement.
Et puis, on pourra vous retrouver aussi sur différents concerts. concerts dans des lieux privés aussi. Et voilà, il y aura sans doute des choses qui vont se caler d'ici là dans le coin. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de Two Team. Merci Jean-Pierre pour ce moment passé ensemble.
Merci Nicolas.
Et pour avoir répondu à notre invitation. Merci à Vincent qui a assuré la régie de cette émission.
Merci Vincent.
Et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les ondes de l'O3 Radio. À très vite.